Bienvenue dans l'émission Point de vue, le carrefour des réflexions, des analyses sur les sujets touchant la vie socio-économique ou politique de notre continent. Point de vue, une réalisation et présentation de Conrad Gabin.
Chers auditeurs, chers amis en ligne, merci d'être venus dans l'émission Point de vue. Point de vue, dans cette émission particulièrement, nous avons nos amis de l'Europe qui sont avec nous. Nous avons également des amis de la diaspora ici aux États-Unis. Et nous sommes très heureux de vous accueillir dans cette émission et un thème qui tournera essentiellement autour de la situation sociopolitique au Bénin. Alors, ils sont avec nous et tout à l'heure, ils vont se présenter et moi-même au micro pour conduire cette émission. Gabin Conrad depuis Houston, Texas, pour le compte de la Radio New Vie Africa, groupe Média New Vie Africa. Donc, merci et de rester avec nous et on revient dans quelques instants. Merci d'être venu, chers invités. Merci, chers auditeurs, merci, chers invités. Nous sommes en ligne. Nous commençons d'abord avec Madame Sonia.
Oui, bonjour. Je suis Sonia Akpo-Benjou. Je suis comptable de formation, actrice dans la société civile au Bénin. Je fais quelques œuvres sociales dans l'éducation depuis quelques années vers le Bénin, et voilà. Donc, je suis aussi membre de la diaspora. Voilà, en gros.
Merci, Madame Bassoudia. Nous continuons dans la même zone. Monsieur Badarou.
Oui, moi, je suis Aziz Badarou, donc franco-béninois. Donc, je suis consultant informatique, tout ce qui concerne l'informatique décisionnelle. Et j'essaye de reproduire la même chose au Bénin, mais je commence par des activités je développe des points de service dans chaque quartier. Aujourd'hui, j'en ai 5 et l'objectif, c'est d'arriver à 10. Donc, pour tout ce qui concerne le transfert mobile money, tout ce qui concerne l'utilisation des outils informatiques, des réseaux sociaux et tout ça, j'essaie d'être à proximité. Donc, entrepreneur au Bénin depuis une dizaine d'années maintenant. Donc, voilà en gros ce que je suis.
Merci, monsieur Jadis. Et nous descendons maintenant aux États-Unis. Nous allons directement à Nebraska.
Je suis Félix Abraham Digny, je suis béninois vivant à Nebraska depuis quelques années. Et voilà, retenez cela, je suis membre de la diaspora aussi. Merci.
Merci, M. Félix. On continue de descendre à Iowa maintenant.
Oui, merci beaucoup. Moi, je suis Saléo Aboudou, je vis aux États-Unis depuis une dizaine d'années. J'ai servi aussi dans l'armée américaine pendant 6 ans. Actuellement, je travaille pour le Federal Government. Je suis membre de la diaspora, je suis béninois.
Merci, M. Saliou. Nous descendons toujours à Houston, au Texas maintenant.
Allô, c'est Alphonse Koyoyameolo, originaire du Togo. Je suis poète et écrivain. Je travaille dans la confection des automobiles, spécialement Nissan. Et je suis avec le groupe Sauvons l'Afrique, qui est un ONG. Je suis le vice-président et je suis toujours au pied du mur quand le Rome est en train de brûler. Aujourd'hui, c'est l'Afrique qui brûle, donc je suis là en tant que diaspora et observateur. Merci.
Merci, chers invités. Moi-même, je suis Gabin Conrad depuis Houston, Texas. Je suis le directeur de New Year Africa, président de l'ONG Sauvons l'Afrique. Et merci d'être avec moi dans cette émission et que j'anime à point de vue et qui nous permette de fusionner nos énergies ensemble pour réfléchir sur les efforts que la diaspora africaine peut fournir pour le développement de l'Afrique. Donc, c'est dans ce contexte-là que nous organisons cette émission. Et encore, et cette fois-ci, nous descendons au Bénin pour prendre la température de la situation sociopolitique et aussi l'organisation des législatives très bientôt qui fait l'actualité, qui est d'actualité. Donc, c'est autour de ces deux points essentiels que nous allons rester dans cette émission. Donc, merci à tous les auditeurs qui nous suivent maintenant. On revient dans quelques instants. On va avec Cloud 7. Chers invités, chers auditeurs, nous sommes dans l'émission Point de vue avec nos amis connectés d'Europe et ici aux États-Unis. Et nous commençons avec le premier numéro, c'est la situation sociopolitique que nous allons brosser, nous allons faire un tour d'horizon rapide pour nous dire, dites-nous, chers invités, et comment vous trouvez cette situation sociopolitique au Bénin depuis l'avènement de la rupture de monsieur, de son excellence, le président Patrick Talon. Madame Sonia.
Oui, j'aurais préféré ne pas commencer, mais voilà, on fait toujours honneur aux femmes. Merci. La situation sociopolitique dans notre pays est, à mon avis, un peu tendue depuis l'avènement de M. Patrice Talon au pouvoir en 2016. Tendue parce que il y a eu beaucoup de dérives. Moi, je fais partie de ceux-là qui ont porté le président Patrice Talon au pouvoir. Enfin, à mon petit niveau, je fais partie de ceux-là qui ont battu campagne dans les hameaux, dans les villages, pour le président Patrice Talon. Mais très vite, j'ai été désenchantée. Très vite, et puis je me suis retirée pour me mettre encore une fois dans mon grand parti qui est le peuple. Je me suis mis aux côtés du peuple. Voilà, donc voilà ce que je peux dire en gros. C'est la situation sociopolitique est très tendue parce que bon voilà, économiquement ça ne va pas. Politiquement très tendu parce qu'il y a jamais de consensus. Depuis, il y a eu plusieurs lois qui ont été votées contre toute attente. Des lois que nous on pensait avec à ses côtés le maître Diogbénou, Joseph Diogbénou, on pensait que ce monsieur qui est un grand monsieur allait pouvoir arbitrer comme cela se doit, mais on a été désenchantés, on a été déçus. Des lois sur lois, je ne peux pas vous les citer ici, je ne peux pas me mettre à les citer compte tenu du temps qui m'est accordé, mais disons que la situation sociopolitique et économique est très très tendue en ce moment dans notre cher pays. Voilà.
Merci, Madame Sonia. On revient dans une. Voilà, situation tendue au Bénin, selon Mme Sonia, et vous êtes de même avis, M. Badaro.
Moi, tout ce que je peux déplorer, je pense que la situation d'aujourd'hui, au XXIe siècle, avant encore des problèmes pour l'organisation d'une élection, ça c'est la honte de tous les Béninois. C'est-à-dire qu'il n'y a pas à être de l'opposition ou de la mouvance. C'est-à-dire qu'on ne peut pas être respecté sur le plan international si, pour des choses aussi évidentes, on n'arrive pas à faire du bon travail, on n'arrive pas à faire ça sans faire du bruit. Moi, je condamne toute la communauté parce qu'il y a des gens au ministère, il y a des gens à la Sénat, il y a des gens à la Cour constitutionnelle, il y a des gens partout. Même si on enlève les grands hommes ou les ponts de tête, comment ça se fait que pour arriver à une telle situation, on a des gens qui travaillent sur le dossier, des gens qui font des vérifications, qui n'ont pas alerté compte tenu de l'échéance courte qu'on a pour organiser les élections. C'est-à-dire que, indépendamment de qui gagne les élections, le fait d'organiser des élections paisibles dans un pays, c'est la fierté de tous les Béninois, que tu sois de l'opposition ou de la mouvance. Comment ça se fait? Comment sommes-nous arrivés là? Comment sommes-nous tombés aussi bas pour être la risée internationale? Je veux dire que voilà, c'est un pays où qui va aller investir dans un pays où pour organiser des élections, on a des problèmes. Qui va vouloir aller s'implanter dans un pays où, à chaque élection, on ne sait pas si on doit faire ses valises ou si on doit rester? Mais moi, je trouve que nos hommes politiques doivent prendre le temps de la réflexion et de se rendre compte, parce qu'aujourd'hui, on a les réseaux sociaux. Ce qui se passe au Bénin, ce n'est pas caché pour quelqu'un qui se trouve à New York aujourd'hui, dans la minute qui suit, on sait. Donc, les gens doivent se rendre compte et réfléchir. Et quand je vois que parallèlement à ça, on nous a bassiné les oreilles pendant des années et que les Africains manquent de consistance. Vraiment, c'est la honte. Vous vous battez d'un côté pour avoir la monnaie, on est en train d'aborder un truc, mais vous montrez deux jours, trois jours après de l'irresponsabilité pour les minima qu'on peut espérer dans un pays. Comment les gens ne se rendent pas compte de ça? C'est ça qui me fait mal et qui m'attriste énormément.
Merci, monsieur Badarou. On revient dans un instant.
Shalom, salam aleikum. You can see Christian, Jews and Muslims living together and praying. Amen.
Merci, monsieur Badarou. Nous descendons maintenant à Nebraska avec monsieur Félix.
Oui. Oh, la situation politique du pays, ça ne va pas, ça va. Qu'est-ce que je dirais? Oui, je pense qu'actuellement, ça ne va pas pour des politiciens béninois qui ne veulent pas s'entendre pour que nous allions bien au pays. Et je tiens à remercier beaucoup la diaspora qui nous informe au fur et à mesure de tout ce qui se passe au pays. Tout a commencé depuis un bon moment, je ne dirais pas tout de suite, juste au lendemain des élections, quand le président a pris le pouvoir et qu'après il y a eu cette affaire de drogue, jusqu'à présent je n'arrive pas à comprendre et que les gens n'arrivent pas à nous délucider. Qu'est-ce qui s'est passé réellement entre le président Talon et le président Adjavon? Il doit y avoir un deal qu'on ne comprend pas et que les gens sont tenus de nous expliquer. Parce que jusqu'à présent, je ne comprends pas pourquoi un soi-disant narcotrafiquant, puis l'Afrique, et va se réfugier en Afrique, en Occident. Je n'arrive pas à comprendre. Et les gens doivent pouvoir nous expliquer ce qui s'est réellement passé pour que ceux qui supportent Adjavon et ceux qui supportent Talon puissent se comprendre. Si ces gens de cas ne sont pas élucidés, je pense que ça n'ira pas. Et puis, je pense qu'au fil du débat, on saura parler des élections à proprement dire. Mais ça a commencé depuis un moment. C'est ce que je tiens à dire pour le moment.
Merci, M. Félix. On revient. Voilà, situation tendue au Bénin, des élections qui déjà posent problème et qui déjà constituent des facteurs négatifs pour l'investissement dans un pays normal où il y a des problèmes pareils. Il est difficile d'investir et maintenant également. Et ce problème commence depuis un certain temps et les malentendus et la tension entre Talon et Adiavon reste à désirer puisque il est difficile de comprendre comment quelqu'un qui est un trafiquant puisse libre facilement s'installer en Europe, en l'occurrence en France. Voilà, nous descendons encore pour la même question et situation sociopolitique au Bénin, Monsieur Saliou Abdou.
Oui, merci beaucoup, Monsieur Gavin. Vous savez, nous avons tous opté ici, même si d'autres personnes ont été du camp de l'opposition, nous avons tous opté pour que le président, M. Patrice Talon, vienne au pouvoir. Mais il est à remarquer que depuis l'avènement du président Talon au pouvoir, moi je dirais tout simplement que le Bénin est tombé sous danger. La situation sociopolitique au Bénin est chaotique. Chaotique parce que vraiment au niveau du social, ça ne va pas. La population, elle est malade. Au niveau politique, c'est la dictature pure. Hein? Vous comprenez un peu? Donc, je dirais tout simplement que actuellement, ce que nous vivons au Bénin est très dangereux parce que la remarque que je fais, c'est que le Bénin est en train de reculer de 50 ans. Donc, on est passé de peut-être de 50 ans derrière à 50 ans devant, mais aujourd'hui, nous remarquons que le Bénin est en train d'aller en arrière et c'est dangereux pour le peuple béninois, c'est dangereux pour les pays de la sous-région, c'est dangereux pour tout le peuple africain et ça nous nord pas parce qu'en tant que béninois, nous sommes fiers et partout nous allons, nous sommes fiers d'ici. Très haut et fort que nous sommes béninois, nous venons d'ici et de là et mais. Avec ce qui se passe aujourd'hui, notre démocratie est en danger, en plus danger, vraiment, sincèrement, et ça fait que nous crions. Ça fait que nous crions. Ça fait plusieurs fois que je viens ici et ça fait plusieurs fois qu'on discute sur cette situation et vraiment, ça ne va pas. Il faut qu'on trouve une solution, il faut qu'on ramène toutes les balles à terre, il faut qu'on parle, il faut qu'on se concerte et je pense qu'on va finir par s'en sortir. Voilà un peu ce que je pourrais dire pour l'instant.
Merci, Monsieur Saliou, et nous revenons dans quelques secondes. Voilà, chers auditeurs, nous sommes dans l'émission Point de vue avec nos amis de la diaspora et situation sociopolitique au Bénin et organisation des législatives prochaines. Et on a deux points qui sont au centre de ce débat, de cette émission. Alors, nos amis sont avec nous. Et alors, d'après l'analyse, le Bénin ne se porte pas bien politiquement et socialement également depuis un certain temps. Et tout ceci ne fait que briser le quotidien des populations. Et tous ceux qui ont aidé M. Patrice Talon au pouvoir se sont complètement déboussolés et se cherchent et se demandent de quoi est-il question. Et j'étais à Cotonou également, et en ce temps, vous preniez tout, et tout le monde, Cotonou, vibrait, et scandait, Patrice Talon. Et donc aujourd'hui, c'est de n'importe quoi que nous assistons sur les médias, sur les réseaux sociaux. Il y a toujours des déceptions, des commerces qui ont été
détruits et des gens ont perdu leur emploi, des commerces, des sociétés ont été fermées, privatisées et des exilés politiques et plusieurs autres dossiers attendent certaines responsables de l'ancien régime et des opposants qui sont poursuivis et c'est une pluie de c'est une chasse clairement contre tout à tout actuellement qu'on remarque sur les médias et qui se confirme également avec la visite de certains bénévoles sur le terrain et qui reviennent nous dire exactement que ça brûle pas bien au Bénin. Voilà, et c'est dans tout ce contexte-là, dans cette logique-là, que la Cour constitutionnelle continue d'appuyer les réformes, le code électoral, et que sais-je encore. La grande difficulté, la grande inquiétude aujourd'hui pour certains, c'est la position de l'avocat personnel du président et à la Cour constitutionnelle, là, et ça devient de plus en plus préoccupant pour certains. Voilà, nous allons aborder le second point, c'est l'organisation des élections législatives, les inquiétudes, les grandes inquiétudes de monsieur Badaro.
Oui. Moi, la situation est complexe parce que je comprends pas quelles sont les motivations des gens, pourquoi les gens veulent être députés, parce que c'est tout ça qui s'écroule dans ma tête parce que mes idéaux par rapport pour moi quelqu'un qui veut être député, c'est quelqu'un qui veut défendre la nation, les gens qui votent des lois. Deux mois après que la loi se retourne contre eux, c'est le fait de ne pas pouvoir analyser, c'est le fait d'avoir des passoires comme ça qui fait que on vote des lois pour des lois, on vote des choses qui posent autant de problèmes, ça ne devrait pas exister dans un pays démocratique. Donc il n'y a rien qui me rassure aujourd'hui, rien. Parce que je vois des gens en costume, je vois des gens, on a l'impression que des gens civilisés, mais la civilisation là, c'est juste sur la forme, pas sur le fond. Parce que on avance comme un pays qui vient de naître, alors qu'on a suffisamment d'histoire, on a suffisamment de culture, on a de culture de paix, d'avancement, de progrès, on a plein. Et là, on arrive à un moment donné où tout ça s'écroule. Je sais pas quoi dire. Pour moi, c'est honte. Moi, j'ai honte. Je sais pas vous, mais personne ne peut se vanter de cette situation-là dans un pays au XXIe siècle.
Merci, monsieur Badaro. On revient.
Ini aku niu, walau ane nu sampe ane, bala kakabako. Walau ane nu sampe ane, bala kakabako. Balea, bini aku ne, balia misi, bini aku niu.
Bien, nous disons merci à Dobé Niaoré de la Côte d'Ivoire qui nous chantait pour la Paléa. Voilà, je remonte encore dans les questions et nous sommes au numéro 2 et législative inquiétude, les grandes inquiétudes, Madame Sonia.
Oui, merci encore une fois. J'ai été proposée à cette émission Point de vue. Parce que il y a une semaine, jour pour jour, j'ai écrit une lettre ouverte au président Patrice Talon. Je vais vous la faire parvenir si vous désirez la lire. J'ai écrit une lettre compte tenu des difficultés, compte tenu de la tension sociopolitique et compte tenu des difficultés que le nouveau code électoral impose et compte tenu du timing le délai imparti pour que tout rentre en ordre. J'ai écrit une lettre ouverte au président Patrice Talon, dans laquelle je ne faisais pas que critiquer, mais je faisais aussi des propositions au président. Dans les propositions, il y avait donc parti aux élections avec l'ancien code qui n'était pas, qui avait peut-être ses limites, mais qui n'était pas mauvais, qui n'était pas mauvais pour aller aux élections en 2015, qui a apporté le président Patrice Talon au pouvoir en 2016. Il y a peut-être des tares, il y a peut-être des choses à corriger, mais qui n'étaient pas mauvais. Donc, je proposais dans ma lettre de partir aux élections avec l'ancien code, mais tout en gardant, par exemple, quelques innovations que le nouveau code apporte, comme le quitus fiscal, qui est une belle innovation. Hein. Si on veut un développement, il faut que tout le monde s'acquitte de ses impôts. Sauf que le processus qui est mis en place aujourd'hui ne permet pas d'avoir le quitus fiscal en temps et en heure pour le timing qui est imposé par la Sénat. Je proposais en deuxième solution de reporter les élections afin que le nouveau code soit réélu à l'Assemblée afin de corriger certains articles ou afin de trouver un consensus. Bon, voilà, c'est peut-être utopique, mais pour préserver vraiment la paix et pour préserver l'image de notre pays qui est le premier pays démocratique dont moi je me suis vantée pendant 20 ans à l'étranger, voilà, c'est en prévention de ces choses-là que j'ai écrit cette lettre parce que je n'en dormais plus et je me suis dit, j'avais un rôle à jouer dans la société, et donc je dis, ben, je prends mes responsabilités et j'ai écrit cette lettre. Voilà, les difficultés aujourd'hui, c'est compte tenu du timing, c'est compte tenu de ce nouveau code, et puis on avance, et puis d'autres règles de jeu qui viennent s'ajouter, comme le certificat de conformité des partis politiques. Attends, on crée des difficultés. Plus on avance, plus on crée d'autres difficultés. Et c'est trop tendu. Moi, je résume la situation en disant que la situation est tendue, c'est trop tendu. Et je demandais vraiment au président que tout lui revient et que c'est à lui de ramener la balle à terre. Il est capable de tout arrêter. Il est capable de revoir le processus. Ben voilà tout. Donc je vous renvoie un peu vers ma lettre, mais bon, j'ai essayé de résumer un peu par rapport aux élections. Voilà.
Merci, Madame Sonia. On revient.
Merci.
Voilà, situation sociopolitique au Bénin et organisation des législatives. Monsieur Félix, et actuellement, nous sommes en train d'assister à un cycle de rejet de dossiers au niveau du ministère de l'Intérieur, non-conformité au code électoral, et certains sont facilement sortis comme des fidèles qui vont à la table sainte et d'autres sont restés là regardant le curé, le ministre de l'Intérieur. Est-ce que vous ne trouvez pas qu'il y a quelque chose qui ne marche pas?
Oui, merci, Jérémy. Au fait, il faut partir tout au début du vote du code, du nouveau code électoral. On doit savoir qu'au départ, il y avait eu des tentatives d'exclusion.
Parce que le nouveau code est vraiment truffé de beaucoup de tentatives d'exclusion. On avait parlé des anciens présidents qu'il fallait exclure, à qui il ne fallait pas permettre d'aller aux élections. Moi, à mon humble avis, les élections doivent constituer une fête où tout le monde doit y participer. Et vous allez remarquer que partout en Afrique, chaque fois que l'on a tenté d'exclure des gens, ça a entraîné des conflits par la suite. La Côte d'Ivoire en est un exemple palpable. Pourquoi devons-nous exclure? Pourquoi devons-nous exclure? Pourquoi ne devons-nous pas permettre à tout le monde d'aller aux élections, quitte à ce que vous échouez et que vous sachiez que réellement vous avez échoué? Si vous empêchez des gens déjà d'aller aux élections, ce n'est pas une bonne chose. Et il faut tout faire pour que tout le monde puisse aller aux élections et que ceux qui doivent échouer échouent et ceux qui réussissent réussiront et plus que ça marche. Voilà. Et quand je... Oui,
oui, allez-y.
Je vais au niveau du quitus fiscal normal. Et ce que je trouve d'anormal à ce niveau, est-ce que c'est au niveau, quand il y a élection, qu'il faut parler du quitus fiscal? Est-ce qu'il ne faut pas penser cela? Il ne faut pas repenser le cadre des quitus fiscal dès le début. Où tout le monde doit pouvoir avoir le quitus fiscal sans qu'il y ait élection. Parce que ce quitus fiscal dont on parle aujourd'hui, a-t-on averti les gens? A-t-on informé les gens? Comment les gens perdent les impôts? Est-ce qu'on a changé? Quelle est la responsabilité de la direction du service des impôts dans tout cela? Et je parlerai ensuite du ministère de l'Intérieur et surtout du ministère de l'Intérieur où les cadres du ministère ont vraiment fauté et veulent conduire le pays vers un lendemain incertain. Je pense que le législateur avait bien fait dans le temps en écartant le ministère de l'Intérieur et en confiant cette responsabilité des élections à la Sénat. Vous allez me dire que ce n'est pas le ministère de l'Intérieur qui organise les élections, mais une parcelle de pouvoir était donnée au ministère de l'Intérieur actuellement, qui est ce certificat qu'il doit délivrer. Sans ce certificat, vous ne pourrez pas vous présenter aux élections. Et vous voyez tout le tollé qu'il y a eu autour de ça rapidement maintenant. Donc, il y a de quoi à réfléchir à cela. Parce que je suppose que les cadres ne sont pas là pour recaler les partis politiques. Ils sont là pour tout faire pour que tous les partis politiques puissent aller aux élections. Vérifier les dossiers de fond en comble. Les appeler à chaque fois. Ramener ce dossier. Il y a un manque de souveraineté. Ils sont appelés à corriger parce qu'ils sont payés pour cela. Ils ne font pas leur travail. Je ne veux pas accuser le président de la République que c'est lui qui a ordonné ceci. Non, je ne veux pas chercher à savoir cela. Mais je dis, j'incrimine les cadres du ministère. Ils ne font pas leur devoir. Et puis, quand vous êtes nommé ou bien vous êtes cadre quelque part, travaillez librement. Ne pensez pas que si vous ne travaillez pas normalement, on vous punira. Non, ils n'ont pas fait leur travail. C'est pour cela que nous allons directement vers un lendemain certain où personne ne peut juger de ce qui se passe, peut se passer. Parce qu'il y a des vidéos déjà qui circulent où les gens appellent les populations à la révolte. On peut maîtriser soi-même. Et le président même, actuellement, ne peut que maîtriser lui-même, mais ne pourra jamais, ne pourra jamais maîtriser tout le monde autour de lui. Que serait-il si demain tout le monde abandonnait? Qu'est-ce qu'il fera? Il sera seul. Raison pour laquelle il doit rapidement penser à autre chose pour que tout le monde aille aux élections, pour qu'ils aillent tous aux élections et que ça se passe comme une fête, comme d'habitude, et que le Bénin soit toujours cité comme référence.
Merci, M. Félix. On revient.
Oya Olafu, annoncez bébé Benedlenam, lenye ya mufo le jagbagba bene chena ma oya olatite ana seveve bene gledo novi
Nous disons merci à Omabi du Togo. Voilà, nous sommes dans notre mission Point de vue et organisation des législatives, les grandes difficultés, les conformités des dossiers au niveau du ministère, mais aussi il y a des remarques qui sont adressées pour certains observateurs. Il y a eu toujours des pagailles dans l'organisation, dans les organisations des élections et certains dossiers sont jugés non conformes avec la note de notification que le ministère a adressée à cette partie au numéro 1, 2. Il semblerait que certains candidats jugés, considérés comme des membres fondateurs, n'étaient même pas dans leur dossier de dépôt de formalité de constitution de cette partie. Monsieur Saliou.
Oui, merci beaucoup, Monsieur Gavin, pour la parole encore. Je vais profiter avant tout commencement pour dire merci à Madame Sonia pour son amour patriotique au peuple béninois et au Bénin. Vous savez, au commencement ici, je disais tout à l'heure que le Bénin est dans une situation chaotique. Et je vais essayer de m'expliquer un peu parce que pourquoi je disais chaotique? Vous savez, quand, avant que le président Talon ne vienne au pouvoir en 2016, déjà, dans ses émissions, il disait quoi? Il disait qu'il était venu faire 5 ans. Il disait qu'il était venu faire un mandat, pardon. Il était venu faire un mandat et qu'il devait sortir triomphant. Donc, ça fait que le peuple actif.
Monsieur Saliou, approchez-vous un peu de votre micro, oui. Merci.
Ok. Vous m'entendez bien maintenant?
Oui, ça va bien maintenant.
Donc, ça fait que le peuple a cru au président Talon et nous avons voté pour lui, ce qui a fait de lui notre président aujourd'hui. Mais nous, force est de constater que après que le président Talon soit venu au pouvoir, le président Talon a changé d'un seul coup. Nous ne comprenons plus rien de tout ce qui se passait. Donc, tout simplement, moi, je voulais être direct et technique. Vous savez, le président Talon est venu au pouvoir et le président Talon ne veut plus laisser le pouvoir, tout simplement. Et l'objectif du président Talon, c'est de tout faire pour se maintenir au pouvoir. C'est son objectif. Et avant de se maintenir au pouvoir, il faut d'abord avoir l'Assemblée nationale dans sa main. Et en plus de l'Assemblée nationale, maintenant, tout ce que tu diras sera passé. Le jour, parce que j'ai dit ça dans un groupe ici, Bénin Diaspora, le jour où monsieur, le professeur Diogbono est devenu président de la Cour constitutionnelle, monsieur que j'aime beaucoup, que je respecte beaucoup, que j'admirais beaucoup en son temps, est devenu président de la Cour constitutionnelle, moi, personnellement, je me suis posé beaucoup de questions. Parce que monsieur, tous on le sait ici, que monsieur Diogbono était l'avocat personnel du président Patrice Talon. Et nous savons bien que c'est la Cour constitutionnelle qui déclare, qui prononce les derniers résultats de l'élection au Bénin. C'est lui qui valide. Mais comment il se fait-il que c'est un monsieur, un avocat personnel de la présidente qui serait maintenant le président de la Cour constitutionnelle? Point d'interrogation. À partir de ce point, moi je me disais tout simplement que le Bénin est en train de se mettre sur la liée des pays dictateurs. Et c'est dangereux pour notre pays. Et quand moi je regarde le Bénin dans ce contexte, je me dis, mais je me suis déjà préparé parce que je savais que nous allons tout faire. Parce que au départ, quand nous parlons de rupture ou bien quand nous parlons de ruse et de rage, nous regardons la chose dans un autre sens. Mais aujourd'hui, nous avons compris que le président Talon a bien ses plans en venant au pouvoir. Et c'est d'ailleurs ce qu'il est en train de faire. Et pour arriver à ce point, le président Talon, pendant que le peuple béninois, pendant que la population béninoise est en train de courir ou bien de retourner derrière un ancien président que nous considérons comme papa bonheur, le président Talon et ses alliés dans son coin est en train de préparer un coup. Et le coup, c'est quoi? C'est ça qui est sorti depuis avant-hier, ou bien, bon, nous sommes déjà au samedi, donc, depuis avant-hier. Donc, il faut que le peuple maintenant se réveille. Vous comprenez un peu? Il faut que le peuple se réveille. Nous ne pouvons pas toujours rester là et dire que ceci, parce que tout est basé sur la loi. Et c'est la même loi que nos députés que nous avons choisis à l'Assemblée. Et monsieur, et excusez-moi beaucoup, on dirait que le nom m'échappe, je vais rapidement chercher. Monsieur Badarou l'a dit que lui ne comprenait plus pourquoi, ou bien nos députés que nous envoyons à l'Assemblée, quel est leur rôle, quel est leur objectif. Quand ils vont à l'Assemblée, c'est pour aller faire quoi? Et je le disais la fois dernière ici que la Constitution, c'est quoi? La Constitution, c'est la volonté du peuple. Et quand nous choisissons nos députés, nous envoyons nos députés pour aller nous défendre à l'Assemblée nationale, pour aller représenter notre peuple. C'est ça l'objectif du peuple. Parce que le peuple, la Constitution, c'est le peuple, c'est la voix du peuple. Et nos députés sont la voix du peuple. Ils sont nos représentants. Mais c'est ça, vous remarquez aujourd'hui sur le terrain que quand nos députés vont à l'Assemblée, ils nous tournent le dos. Ils tournent le dos aux populations. Certains ne reviennent même plus au lieu des campagnes après 5 ans, 6 ans. Et c'est très, très dangereux. Et l'autre problème encore, c'est quoi? L'erreur que nous faisons aujourd'hui au Bénin est que nous envoyons des intellectuels tarés à l'Assemblée nationale. Puis, les gens qui n'ont même pas été à l'école, excusez-moi beaucoup, parce que vous allez entendre d'autres parler et vous serez déçus. Mais comment vous pouvez envoyer les gens qui ne connaissent même rien pour aller voter une loi? Ceux qui connaissent la chose ont des problèmes à comprendre. Maintenant, imaginons-nous, ceux qui ne connaissent même pas la chose, comment ils vont comprendre? Ces gens-là, quand on va les donner quelque chose, mais c'est fini, alors que c'est la vie du pays qui est en danger. C'est l'avenir du pays, c'est l'avenir de nos enfants, des enfants de nos enfants qui est en danger. Alors que nous sommes un exemplaire dans la sous-région. Et c'est là, je dirais, tout simplement, qu'il faut que le peuple béninois, il faut que les Béninois se lèvent. Il faut que nous commençons par réfléchir autrement. D'ailleurs, nous sommes dans un monde aujourd'hui où nous parlons plus de la mondialisation. Et c'est ça qui nous permet de nous mettre ensemble tout à l'heure et de causer. Donc, il faut qu'on commence par se réveiller. Il faut qu'on commence par chercher. Il faut que la jeunesse se lève. Parce que le coup frappera bien la jeunesse. Parce que c'est la jeunesse aujourd'hui qui est sous chômage. Même si moi, je suis jeune, moi, je ne vis pas au Bénin. Même si je suis béninois et j'aime beaucoup le Bénin, mais je peux retourner au Bénin à tout moment. Mais aujourd'hui, sachant que je suis aux États-Unis, ça s'arrête là. Mais il faut que la jeunesse comprenne que le moment est venu pour prendre son avenir en main. Et il faut que nous arrêtons le président Talon. C'est ça le plus important. Et il faut que le président Talon aussi comprenne qu'il doit mettre la balle à terre. Ce n'est pas en utilisant cette technique qu'il va arriver. Ça ne marchera pas.
Merci, mais... monsieur. C'est ça, nous envoyer. Merci. Chers auditeurs, point de vue avec les invités de la diaspora et nous sommes au Bénin, situation sociopolitique, organisation des législatives, les grandes difficultés, il y en a plein et nos invités continuent de faire l'analyse autour de cette situation et la non-conformité des dossiers, des problèmes antérieurs à cette organisation et la question qui nous vient encore, c'est
la note de notification, la lettre de notification du ministère à ces partis qui ont vu leur dossier rejeté. Et de quelque part, il est écrit que certains candidats ne sont pas sur leur liste, sur la liste des membres fondateurs de leur parti. Et vous trouvez ça normal, Madame Sonia, ou c'est comme un Chadien qui, du jour au lendemain, descend au Bénin pour devenir candidat dans un parti politique? Est-ce que vous trouvez ça normal, Madame Sonia?
Oui, merci, mais moi je n'ai pas accès au dossier dont on parle depuis l'annonce. Moi je veux pas opiner là-dessus parce que je suis pas comme le comité d'analyse des dossiers, je sais pas qu'est-ce qui a été vu par le ministère pour que ça soit rejeté. Qu'il y ait des choses qui ne soient pas signées ou qu'il y ait des personnes qui ne figuraient pas dans leur statut. Et moi, démocratiquement, je me dis c'est des choses à corriger, juste à corriger par les partis qui ont été appelés à l'ordre de corriger, et puis normalement ça ne doit pas servir d'alibi pour les recaler aux élections. C'est pour ça que je parlais de tout à l'heure de timing. Il y a un vrai problème de délai imposé par la Sénat. Donc est-ce que ces ping-pong n'auraient pas pu être faits pendant que la loi ou bien le nouveau code a été voté? Pendant cette période, ça n'aurait pas pu être fait à cette période-là, et c'est à la veille du dépôt des dossiers. Est-ce que le timing ne va pas jouer contre ces partis de l'opposition? Voilà la question que je me pose intérieurement. Mais sinon, si le ministère a trouvé des choses à dire sur le dossier, eux, ils avaient juste à corriger. Et puis, à mon avis, ils ont juste à corriger et puis déposer le dossier. Et puis, normalement, ils devraient être validés. Donc, voilà.
Merci, Mme Sonia. Monsieur Alphonse, vous nous suivez et certainement.
Oui, je vous suis 5 sur 5 avec la salive dans la bouche en écoutant les débats.
Merci, monsieur Alphonse. Bon, voilà, et vous êtes un observateur dans cette émission, assistant, et vous trouvez normal un pays que tout le monde apprécie, un quartier latin, quartier quoi, et quartier de démocratie modèle depuis un certain temps, et voilà, et nous avons des députés maintenant, on se rend compte que c'est de la voix écrasée à l'Assemblée au Bénin. Est-ce que vous trouvez pas ça? Vous trouvez ça normal pour un pays qui se dit, qui s'affiche comme étant un modèle de la démocratie dans cette sous-région?
La question est tellement grande, je ne saurais dire la voix écrasée, mais peut-être c'est l'ignorance. Madame Sonia avait commencé en parlant de la tension sur la situation tendue sur le plan électoral actuellement sur le Bénin. Moi, je peux résumer ainsi en ajoutant que politiquement, le Bénin est maintenant désabusé, économiquement assoiffé et socialement confus. Pourquoi? C'est parce que on fait croire à la population comme Salut, vous l'avez signalé qu'il, Monsieur le Président Talon serait parti pour un seul mandat en mettant un peu de l'eau dans le vin pour que la population ne le sue pas proprement. Vu ce qui se passe sur les lois qui ont été créées sur les cultistes, c'est tout se prépare pour aller vers un coup d'État constitutionnel. Ça veut dire qu'il mettra tous les gens de son côté et éliminer définitivement l'opposition. Or, tout ce qu'il fait, c'est légal sur les yeux de certaines personnes. Et c'est à cause de ça que on dit souvent, les Américains disent ici, les élections ont des conséquences. Quand vous, qui va dans les urnes pour voter, vous ne connaissez pas qui sont ceux-là qui vont représenter la population. Est-ce que d'abord, ils connaissent déjà leur rôle d'être député, comme Saliou l'avait tellement bien dit, que on envoie, c'est comme on envoie les borgnes pour les borgnes pour aller conduire les sourds. Donc c'est difficile à pouvoir écouter le peuple, à sentir la peine du peuple et surtout préserver cette démocratie que moi personnellement j'avais joui au cours de mes séjours au Bénin. J'ai fait 7 ans au Bénin pendant mes temps d'exil et ça serait dangereux. C'est un slippery slope, dit les Américains, le Bénin est sur une pente glissante actuellement. Merci de m'avoir donné la parole.
Merci, M. Alphonse. On revient.
O polo da gbiragbe afopana gbe ko si topa nhun ko sa fofo tu do mi do je suis fatigué mais adi mara nhun ko o da fini courant to e coupé adu mun je mai me o alo po koro yan na chele sure sunwe dokumo mi kande wo won die ro pe njai Yon a chede esu dokun chenu porumbo e jene in kuran chene hansiron.
O tuka pu po kwe, o le si lagwe lagwe, o poro lagwe lagwe, a popa lagwe o si to pare anu po sawe. O po a to do mi to, e si pa tu ne e ne a la lagwe.
Merci à l'offre et voilà et courant. Merci la musique. Voilà, le Bénin est gâté, le Bénin a tout ce qu'il faut pour se développer, surtout avec sa musique, sa culture, tout. Il y a beaucoup de choses, beaucoup de ressources au Bénin. Et voilà. Et ce Bénin que nous aimons tous, je suis bénévole également, donc que nous aimons tous, est en train de traverser une situation dramatique et des députés qui ressemblent à des élèves de l'école primaire qui signent, qui lèvent leurs doigts et qui sont devenus de plus en plus, qui ont du poids, qui ont pris de poids et qui nagent à contre-courant, qui n'écoutent plus leurs électeurs et autres, qui ne reviennent même plus dans ces régions pour voir s'il y a encore des gens qui vivent là et reviennent simplement 5 ans après pour demander encore le vote. Donc, et c'est de ça qu'il est question. Aujourd'hui, on les considère dans un pays normal, c'est des législateurs, des gens qui votent des lois qui, à la lumière de la Constitution, prennent des décisions pour sauver la nation. Donc aujourd'hui, c'est plutôt de n'importe quoi que nous assistons et des gens ont considéré l'Assemblée comme un métier, c'est ce qui est grave encore, et comme M. Badarou l'a dit, et il se demande pourquoi des gens veulent être députés. Ça, c'est une grave question, une très grande question. M. Félix, est-ce que vous trouvez une réponse à cette question? Pourquoi des gens veulent être des députés dans ce pays-là?
Oui, merci, cher ami. Pourquoi les gens veulent être députés?
Oui. Est-ce qu'ils comprennent leur mission?
Pardon?
Est-ce qu'ils comprennent leur mission de
les députés comprennent bien la mission qui leur est confiée.
Je ne saurais donner peut-être une très bonne réponse à la question, oui. Parce que je dirais que pas tout le monde, il y en a qui connaissent leur mission, mais il y en a aussi qui ne connaissent pas, il y en a qui vont là parce qu'il faut être député, et pour aller se protéger ou bien pour trouver l'unité parlementaire, pour aller se réfugier là-bas, il y en a bon nombre qui sont dedans. Mais il y en a aussi qui vont à l'Assemblée objectivement. Et il y a beaucoup de choses aussi qu'il y a à redire quand on dit que les députés, il n'y a pas d'intellectuels, les intellectuels tarés. Non, je n'irai pas dans le même ordre que la personne. Et les députés ne sont pas censés de connaître tout de suite toutes les lois qu'ils doivent voter, mais je pense qu'il doit y avoir des cabinets, des gens... bien indiqué pour leur expliquer est-ce qu'il faut recourir à ces gens-là pour leur expliquer les lois qu'il faut voter, les lois qu'il ne faut pas voter, les inconvénients que peut entraîner une loi après le vote. Je ne sais pas s'ils le font, mais généralement, je pense que beaucoup aussi vont pour la nation. Il y en a aussi qui vont, comme je l'ai dit, pour leur intérêt personnel. Et je ne suis pas aussi pour des gens qui disent que tout le monde doit partir de l'Assemblée, des gens, il y a des vieux qui sont là-bas, qui doivent partir. Je n'en veux pour preuve, ici aux États-Unis ou à la Chambre des représentants, Nancy Pelosi, avec ses 78 ans, dirige encore la Chambre des représentants. Donc, il n'y a qu'à revoir les tests pour voir ceux qui doivent y aller, les critères comme ça a commencé, mais seulement ils n'ont pas donné assez de temps pour que les gens puissent parler de ce code électoral, puissent détailler de fond en fond, parce qu'ils étaient pressés aussi d'éliminer certaines personnes, comme je l'ai dit tout au début, qu'il ne fallait pas faire. La loi ne doit pas être impersonnelle, comme on le dit, il faut que tout le monde aille et que la loi soit pour tout le monde. Donc, ce que je trouverai à dire par rapport à ceux qui vont à l'Assemblée, mais ne dites pas, il y en a aussi. Et il faut accentuer aussi, parce que les gens ne savent pas parler le français, parce que est-ce qu'il ne faut pas revoir encore le truc? Parce qu'un pays qui veut se développer, doit-il se développer avec la langue des autres? Nous devons penser à cela. Et puis je me rappelle, pour une petite histoire, pour le feu, Monseigneur Robert Sartre était allé à Rome à la conférence, tout le monde prenait note. Et il y avait un évêque vietnamien qui s'est approché de lui et a remarqué que Sartre prenait la note en français. Il lui a dit, vous n'avez pas une autre langue chez vous et vous prenez la sienne là. Et c'est ça qui a fait que Sartre, quand il est revenu, il a tellement fait la promotion de la langue de l'alphabétisation. Donc, il faut revoir beaucoup de choses. Si réellement nous voulons se développer, est-ce que nous allons nous fier aux Français pour nous développer? Parce que ne disons pas que des gens ne sont pas intelligents et que c'est en parlant le français qu'on est intelligent. Il y a beaucoup aussi qui sont bien intelligents et qui peuvent aider le peuple. Donc, il faut revoir tous ces trucs.
Voilà, merci, monsieur Félix Orodien. Voilà, nous sommes dans l'édition Point de vue. Je rappelle aux auditeurs que nous avons avec nous des amis de la diaspora, Europe et États-Unis. Et voilà, une situation sociopolitique au Bénin, organisation des législatives, quels députés pour un lendemain meilleur politique au Bénin, les députés sont plusieurs députés ont des choses à se reprocher. Aujourd'hui, les gens se posent la question et pourquoi certains veulent obligatoirement être députés. Et avec le développement de l'intervention de Félix, on pourrait même donner à cette chance à tout le monde d'être député, même si ces personnes n'ont pas été à l'école des Blancs, ou bien je ne parle pas français, mais on n'est pas encore à ce niveau. Aujourd'hui, c'est des gens qui ont leur tête sur les épaules, c'est des gens qui sont bien habillés, des boubous, des vêtements. Okay. Et l'émission est point de vue, et nous parlons des législatives, l'organisation des législatives, et nous avons des députés qui sont contestables. Voilà, donc on se demande, des gens se demandent, mais bon, et quel député faut-il choisir pour mieux être, sauver cette nation? Et question d'âge à soulever, monsieur. Félix, il n'est pas question de d'âge aujourd'hui, ce que nous sommes en train de crier, c'est-à-dire de souligner, c'est qu'il y a certains députés qui n'ont pas leur tête sur les épaules. Monsieur Badaro.
Oui, j'ai pas entendu la question, pardon.
Voilà, et certains députés, vous avez soulevé un problème majeur et très délicat. Et pourquoi certaines personnes veulent être députées au Bénin?
Oui.
Est-ce qu'un métier, une profession?
Ah, bah, aujourd'hui, la situation du Bénin par rapport à l'historique, il est clair que les gens n'ont pas un métier. C'est rien d'autre qu'un métier. Aujourd'hui, c'est pas. Il n'y a aucune ambiguïté là-dessus. Parce que quand vous regardez nos députés et les salles de permanence, il n'y en a pas. Donc ils sont députés tout seuls pendant 5 ans. Il n'y a pas un endroit où on peut aller solliciter, où les députés peuvent remonter des informations. Les gens, ils élisent des députés, ils ont même pas, le peuple n'a même pas un réflexe de dire voilà, il y a un problème. Il y a une permanence des députés à tel endroit, je peux y aller à tel moment pour aller soumettre une carte, machin. Donc, un député à qui on demande des faveurs, c'est presque si vous avez demandé à un homme riche ou à quelqu'un d'autre qui est dans la population. Donc, tout ceci nous amène à penser que ce pourquoi on élit un député n'est même pas clair entre nous, entre le peuple et le député, entre les députés et l'administration centrale. Donc, moi je suis dans une autre posture aujourd'hui. C'est-à-dire que si nous mettons toute notre énergie que sur la contemplation d'un problème, quel qu'il soit le problème, nous risquons de louper la solution simple qui permettait de résoudre le problème d'aujourd'hui. Aujourd'hui, on a les élections en avril. Ce qui est important, il y a des partis, il y a des gens qui se sont motivés pour y aller. On a une échéance de 2 mois à peine où on doit résoudre ce problème-là. Donc moi, ce que je suppose, ce que je propose, c'est qu'on fasse tout pour que les élections aient lieu dans la sérénité et dans la paix. Tout le focus qu'on doit avoir aujourd'hui, ce qui s'est passé hier, ce qui s'est passé avant-hier, ce qui s'est passé depuis l'avènement de la rupture, pour moi, c'est des choses qui sont derrière. Focus aujourd'hui sur comment on fait, comment on enlève les blocages pour aller à une élection paisible en avril. Ne nous dispersons pas, parce que nos pays ont tellement de problèmes, plein de choses qu'on peut pas traiter dans les 2 mois qui viennent là. Dans les 2 mois qui viennent, on a un seul objectif, élection libre et démocratique, et que tous les gens qui veulent y aller puissent y aller dans la paix et dans la sérénité. Pour moi, ce qu'il y a à faire aujourd'hui, c'est rien que ça, rien d'autre.
Merci. Merci, monsieur Badaro. Oui, et organisation des législatives, les députés, la loi votée, un des articles qui pose problème, je pense, c'est le numéro 242, et oui, bien sûr, et qui pose problème, cette loi votée par les députés qui retombent sur eux en pleine ville,
après avoir à peine sorti de la salle. Et est-ce que vous trouvez ça normal, M. Saliou?
Oh, merci beaucoup, M. Gavin. Vraiment, merci beaucoup encore pour la parole. Vous savez, je disais tout à l'heure dans mon intervention, je qualifiais certains de nos leaders députés comme étant des intellectuels tarés. Je voudrais juste mettre certaines classifications parce que en disant intellectuel taré, je ne suis pas en train de les inciter. Vous voyez un peu, parce que déjà même il y a le mot intellectuel déjà. Donc je ne suis pas en train de les inciter. Je suis en train de dire tout simplement que ces gens-là, en allant, étant leaders, ils ne savent pas encore le fardeau qu'ils portent sous les dos. Et en allant nous représenter à l'Assemblée, ils ne prennent pas le temps de se battre, de se conformer à ce que le peuple veut, à ce que la population veut. Donc, tout ce que je dirais, tout simplement, ils sont là pour leur objectif personnel. Et quand on est là et on ne pense pas au peuple qui t'a envoyé, là, moi, je te qualifie directement d'intellectuel mentalé. Vous voyez un peu? Donc, si je reviens maintenant sur le code 242 dont vous parlez tout à l'heure, et ça revient encore sur ma manière de parler. Parce que quoi? Mais, monsieur Gabin, nous vivons dans un pays où c'est la loi ou rien. Vous comprenez un peu? Et moi, je suis venu aux États-Unis ici quand j'ai 27 ans. Vous voyez? 25 ans, pardon. Quand j'ai 25 ans, je suis venu aux États-Unis. Ça veut dire quoi? J'ai eu à étudier au Bénin, j'ai fait un bac là-bas, j'ai fait une licence là-bas avant de venir ici, en comptabilité, bien sûr. Je suis venu ici pour venir apprendre l'anglais. Donc, l'anglais n'est pas ma langue. Mais malgré ça, je suis venu ici, je me suis intégré. J'ai fait le AME, je suis allé à l'école ici, actuellement je suis en train de faire MBA, quand je travaille bien dans l'administration américaine. Et je suis le seul noir béninois, pas mieux. Mais malgré ça, jusqu'aujourd'hui, je ne peux pas dire que je comprends la langue anglaise. Vous comprenez un peu? Parce que j'apprends toujours la langue. Mais je ne comprends pas la langue. Est-ce que ça me permet, avec le pays dans lequel je vis, sans les Américains me donnent des papiers à signer ou bien des lois à signer, je ne vais pas comprendre et je vais juste voter? Même mon boulot, je ne le ferai jamais. Si je ne comprends pas, je vais essayer de traduire ça en ma propre langue. Parce que j'ai une originalité. Je viens de quelque part. Et c'est par rapport à ma compréhension, maintenant, que je vais voter ou que je vais signer le document. Retournons maintenant du côté de nos députés. Vous voyez, nos députés, ils votent des lois sans comprendre la loi. Même si je dis, parce que c'est vrai, pour qu'une loi passe maintenant à l'Assemblée, il y a un quota. Vous comprenez un peu? Même si j'ai dit que nous avons, je suppose que nous avons 80 députés. On dit que peut-être 70 députés doivent voter la loi pour que la loi passe.
C'est ça.
Vous voyez un peu, nous avons un quota. Maintenant, dans les 70 députés qui doivent voter pour que la loi passe, celui qui a amené sa loi, il s'en fout de. Si il y a 20 intellectuels ou bien il y a 20 illettrés qui sont dans son objectif, c'est que la loi passe et ça s'arrête là. Maintenant, ceux qui sont là, qui ont compris la loi, d'une manière ou d'une autre, pouvaient aider ces gens-là qui ne comprennent pas bien la loi pour le bien-être de la population avant de voter la loi. Mais ce n'est pas aujourd'hui, en votant la loi, que tout le monde va commencer par dire qu'il ne comprend pas la loi. Et pourquoi je l'ai dit de taré? Parce que même parmi ces députés-là qui ont voté la loi, qui sont bien dans le domaine politique, il y a très longtemps qui sont nos papas, nos aînés, mais aujourd'hui qui sont bloqués et qui ne peuvent rien dire. Et ils sont là, regardez. Vous comprenez un peu ce que je dis? Donc, ça veut dire tout simplement que et nous avons entendu ici partout. Là où maman a dit, quand je dis maman, je parle de la présidente de RB, maman Viera. Quand maman disait qu'elle a reçu de l'argent, ça veut dire quoi? Ça veut dire que nos représentants sont là. Ils n'ont même pas le temps de lire ou bien de comprendre ou bien de défendre le peuple. Mais quand on leur donne quelque chose, c'est fini, ils se jettent et ils votent des lois. Mais il faut être conscient pour pouvoir dire ces choses-là. Mais tant que nous serons toujours à ce niveau, mes frères, on ne peut pas parler de développement, on ne peut pas parler de changement, parce que l'objectif de nos leaders, l'objectif de nos représentants que nous envoyons maintenant à l'Assemblée, ce n'est pas d'aller représenter le peuple, ce n'est pas d'aller se battre pour qu'on construise le peuple, ce n'est pas d'aller se battre pour qu'on développe ce pays, mais c'est d'aller pour les intérêts personnels et égoïstes. Et tant que nous allons toujours réfléchir comme ça, ça veut dire que nous serons toujours là où nous sommes. Et ça ne pourra jamais changer. Maintenant, quand je retourne dans l'autre contexte où on parle de la langue, on a été colonisé par les Français.
Et cette histoire, ça date de très longtemps. C'est notre langue. Mais ça serait difficile aujourd'hui d'introduire. C'est vrai que c'est petit à petit que nous allons construire ceci. Et nous devons commencer par réfléchir dans ce sillage, dans ce contexte. Et c'est petit à petit que nous allons construire ceci et arriver. Et je pense que aussi, ça, là, c'est une très bonne idée parce que c'est vrai, parce que parmi nos députés, et je l'ai bien dit, parmi nos députés, et je l'assume, parmi nos députés, il y a les députés qui ne comprennent pas français. Moi, je suis du nord du pays. Et j'en connais. Vous comprenez un peu? J'en connais. Je suis un vrai nordiste. J'en connais. Donc, il y a parmi ces députés-là qui n'en connaît pas. Peut-être avec l'approche et la proposition de M. Félix qui disait qu'il faut introduire la langue, notre langue. Dans le système. Je pense que là aussi, c'est une bonne idée. Ça permettra à ces députés, peut-être, qui ne sont pas aussi, de ce côté-là, aussi préparés pour mieux comprendre avant tout vote ou bien avant de faire, pas que ce soit pour le bien-être de notre communauté, de notre pays, de notre population.
Merci, M. Salio. Nous allons revenir maintenant pour. Et ce serait pour emballer l'émission et avec des propositions concrètes pour la sortie de cette crise. Merci. Voilà, l'émission touche à sa fin et le mot de fin, la proposition pour la sortie de crise. Madame Sonia a présenté une lettre ouverte au président dans laquelle elle demande des dispositions pour une sortie pacifique pour une organisation beaucoup plus rationnelle de ces élections. Et Madame Sonia, vous confirmer et cette position, vous trouvez que c'est la meilleure solution actuellement?
Merci encore une fois et merci pour cette belle émission. Je ne pense pas de tenir la science infuse. J'ai fait plusieurs propositions. J'ai fait deux propositions. Pour vraiment sortir de crise, toute la solution est dans les mains du président Patrice Talon. C'est-à-dire, si aujourd'hui il voudrait vraiment la paix et il tient, il a plusieurs cartes en main. C'est lui qui détient toutes les solutions. Moi, j'ai fait cette lettre en donnant deux propositions, c'est-à-dire qu'on reparte sur la base de l'ancien code ou qu'on reporte. Beaucoup m'ont reproché, si on reporte, on va prolonger le mandat des députés. Mais il vaut mieux prolonger le mandat des députés et d'avoir une sortie de crise honorable et un pays en paix que de partir absolument dans ce désordre, dans cette tension sociopolitique et arriver à un chaos à la fin que de chercher une porte de sortie beaucoup plus honorable. Donc c'est moi j'ai fait deux portes de sortie, j'ai dit soit on part avec l'ancien code en respectant les nouvelles innovations comme le quitus fiscal en maintenant ceci, proroger le délai et relire par exemple le code électoral permettant à tout le monde de trouver un consensus que vraiment la classe politique, c'est-à-dire les deux classes politiques trouvent un consensus, chacun fasse des propositions concrètes et qu'on arrive à trouver un terrain d'entente afin de ne pas partir dans ce désordre parce que ce serait dommage, moi, mon Bénin me manque, mon Bénin de Adjara me manque, mon Bénin de Savalou me manque, mon Bénin de Savé me manque, mon Bénin du Boïkon, d'Abomey, de Djidja, les villages que je parcours au Bénin me manquent, mais les femmes du marché me manquent, donc s'il arrive quelque chose de dramatique, c'est pas demain que je vais programmer de redescendre, voir toutes ces familles qu'on soutient et pour l'éducation de leurs enfants. Voilà. Merci.
Merci, madame. On revient. sortie de crise et solution, d'approche de solution à la situation que nous vivons actuellement dans le cadre de l'organisation des législatives. Oui. Monsieur Badaro.
Oui, merci.
Quelle est la meilleure sortie de crise?
La meilleure, je ne sais pas, parce qu'il y aura toujours des gens de pour et de contre. Moi, je pense que on a voté une nouvelle loi, une nouvelle charte. Soit on sait l'appliquer dans le temps imparti, c'est-à-dire ce qui nous reste par rapport aux dates de clôture. À ce moment-là, on applique. Si on ne sait pas l'appliquer pour pouvoir avoir des élections en avril, il faudrait repartir selon l'ancien statut, parce que tous les partis ont déjà leur récépissé de création. Après, c'est le fameux certificat de conformité là qui pose problème. Voilà. Après, les 15 membres de chaque commune, il y a des mineurs, il y a des majeurs. Pour moi, c'est un petit problème, ça. Ça, c'est pas des choses qui permettent de disqualifier quelqu'un. Parce que si tu mets quelqu'un comme membre qui est mineur, et si tu le présentes comme candidat, il va pas être présenté comme député. Tout ce qu'on fait là aujourd'hui, c'est pour élire des députés qui vont aller à l'Assemblée en avril prochain et trouver des failles, des petits trucs de non-conformité, les listes des membres, les choses qui ont été créées il y a 10 ans, à partir du moment où vous avez mis des nouvelles contraintes par rapport à ce qui est fait, vous avez mis ça dans un temps impartial, dans un temps très court, et que on n'a pas vu avant la crise là des précipitations autres au niveau des ministères, au niveau des gens qui devaient valider, au niveau du crise suicide. On fait tout à la dernière minute, il n'y a pas de cohérence, on va dans tous les sens. Et moi, ce que je propose, c'est que soit on y va avec les anciens statuts, soit on y va avec que la partie récépissé de dépôt de candidature, et on permet aux gens d'y aller en appliquant ce qu'on veut par rapport aux députés, qui est-ce qu'on veut, est-ce qu'il faut le quitter social, est-ce qu'il ne faut pas. Voilà. C'est qu'à chaque fois, on a l'impression que ce que nous voulons n'est jamais quelque chose que nous voulons tous. On met pas les différentes parties, c'est-à-dire tous les parties prenantes par rapport au résultat qu'on veut, on leur met pas la pression, on met la pression d'un côté et pas de l'autre. Normalement, si on veut des choses par rapport aux échéances d'avril, c'est que tout le monde doit être mobilisé, aussi bien les parties que l'administration, pour pouvoir aller remplir, pour pouvoir atteindre ces objectifs-là en commun. Mais pas les petits jeux de « je dis que ça va pas, tu me donnes le lendemain, à partir du moment où tu n'as pas donné, tu n'es pas conforme, tu ne vas pas ». Non, ça ne peut pas passer dans un pays démocratique. C'est-à-dire que rien que le fait de dire, le fait de penser une seconde qu'on peut organiser des élections, et sous des arguments de non-conformité, on puisse exclure des partis d'une organisation d'une élection démocratique, ça ne peut pas passer dans un pays démocratique. Donc, cette idée-là, il faut l'enlever et qu'on fasse tous pour pouvoir aller aux élections de façon paisible. Mais c'est ça l'objectif et le focus. Et je pense que soit on passe sur l'ancien, soit on passe sur le nouveau, mais on se donne le temps de faire les choses dans les règles.
Merci, monsieur.
Bon, on n'a pas d'autre solution.
Okay. Oui, vous avez fini. Oui, vous avez fini, monsieur Badaro?
Oui, je disais qu'on n'a pas d'autre solution.
Merci, monsieur Badaro. Merci, on revient. Approche de solution pour cette crise est liée à l'organisation de législative. Et nous allons maintenant avec Libresta, monsieur Félix.
Oui, merci, Frère Gavin. Ce que je dirais, je pense que madame Sonia a pris la grande partie, elle en fait cas de beaucoup de choses.
S'agissant du code électoral, les gens peuvent s'entendre parce que ils ont dit qu'au niveau de la CEDEAO, cela doit se faire 6 mois. Mais quand il y a consensus, bon, la CEDEAO peut toujours voir, les gens peuvent se réunir et puis les députés peuvent rapidement se réunir et voir ce qu'il faut faire. Et pour qu'il y ait un peu d'entente entre eux et pour qu'ils aillent aux élections. En dehors de ça, elle en a parlé aussi. Elle a dit tout à l'heure, avec humilité, qu'elle n'a pas la science infuse. C'est ce qui manque aux dirigeants actuels. C'est, ils se disent qu'ils sont les plus intelligents de la République. C'est tout leur problème. Quand ils chercheront à être humbles, tout ira bien dans ce peuple. Mais je sais que les Béninois finissent toujours par s'entendre. Ils s'entendront et les élections se passeront très bien. Et autre question, je dirais, oui, les conflits après les élections, il faut qu'ils pensent réellement aux conflits après les élections, parce que quand on voit d'abord dans la sous-région tout ce qui se passe, il ne faudrait pas que les gens créent un nid pour Boko Haram au Bénin. Parce que quand ça va finir mal, les gens là sont partout et cherchent des terrains fertiles comme terrain de repli. Que le Bénin ne soit pas terrain de repli pour des Béninois eux-mêmes. Qu'ils fassent tout possible pour s'entendre. Ils peuvent toujours s'entendre et ils s'entendront, je suis certain, pour que la nation aille. Je sais que et l'opposition et la mouvance, tous veulent du bien pour le peuple, mais il suffirait que chacun, que tout le monde joue avec l'humilité et que tout aille bien. Et comme on le dit très bien, mauvais arrangement vaut bien comme bon procès. Qu'ils s'entendent et que le Bénin aille de l'avant. Nous comptons sur eux, qu'ils ne laissent pas le Bénin tomber.
Merci, M. Félix.
Bédé, panégano yolo me vono y kwa. Baziza kawa hazon dada edo Bénin lesin randimi. Bon wabo wadago, lomla kuwa gede. Sunu bote khodi to do bename. Sawinya khosada adama dlojeto akwa hanne khamane unkhonu boma la iraya lo mala che khobo mala toli o makito ho ito debo o dodo tonda do tengun me gbe ran ti jalo
bene palinda mala me bala iko babilaka ada dada.
Voilà, nous sommes dans le dernier virage de cette émission. Monsieur Saliou, la porte de sortie de cette solution, appel de solution. Monsieur Saliou.
Oui, merci beaucoup. Merci beaucoup, monsieur Gavin. Je pense que monsieur Badaro et madame Sonia ont déjà tout dit. Je voudrais juste ajouter que le président, M. Patrice Talon, doit essayer de ramener la balle par terre. De ramener la balle par terre parce qu'aujourd'hui, il est le père de la nation. Il est le numéro un béninois. Et c'est lui, quand partout au monde, quand on dit Bénin d'abord, on dit Patrice Talon, puisque c'est lui le président. Donc je pense qu'il doit essayer de jouer à cette sagesse et à cet amour patriotique pour le bien-être de la population béninoise, parce que nous avons tous nos parents là-bas, nos soeurs, nos cousins, nos cousines, et nous voulons bien les revoir en bonne santé et en forme. Nous ne voulons pas une histoire sauvage dans notre pays. Notre pays est un pays démocratique, notre pays est un bon exemplaire dans la sous-région. Nous voulons toujours garder cette démocratie, nous voulons toujours garder ce visage, et je pense que nos leaders, que ce soit l'opposition ou bien la mouvance, doivent se mettre ensemble, parce que nous ne pouvons pas aussi construire le pays dans la division. Donc aujourd'hui, nous force est de constater que tous les opposants ont fui le pays. Sur ce point-là, moi je dirais tout simplement, il faut que nous revenons derrière et que le président essaie de communiquer, de parler et qu'ensemble qui puisse diriger notre cher patrimoine et que la paix et tout ce que nous voulons soit pour notre pays, le Bénin. Merci beaucoup.
Merci, monsieur. Salut. On revient tout de suite.
Elenua boi mendo, o mendo me si te kainde no kwenye kaka piante chile, ai uida tige no we manota, ugeto wo nua boi mendo asije.
Merci, chers invités. Nous sommes à la fin de cette édition Point de vue, situation sociopolitique au Bénin, organisation des législatives, les difficultés, les approches de solutions. Nos invités étaient avec nous, donc et merci à tous. Un petit mot de fin et ça nous donne 15 secondes chacun pour fermer cette édition. On commence toujours l'honneur à la femme, Madame Sonia.
Oui, je tiens à vous remercier pour cette émission et je ne pense pas qu'on ait trouvé de solution à cette émission, mais j'en appelle encore à toute la classe politique à aider notre pays. J'appelle particulièrement encore une fois, j'utilise vos ondes pour appeler encore une fois le président Patrice Talon pour que la paix règne dans notre pays, pour que son passage à la tête de notre pays ne soit pas son passage à la tête de notre pays ne soit pas synonyme d'un chaos dans notre pays. J'aimerais pouvoir continuer à aller manger au Bénin et tout ça. Donc voilà, je ne sais pas si tout est dans les mains du président Patrice Talon. Donc, je passe par ici encore une fois pour lui demander d'avoir plus d'attention sur tout ce que nous, patriotes, nous disons. Merci.
Merci, Madame Soudian. Nous allons directement à Monsieur Badaro.
Oui, moi, ce que j'ai à dire par rapport à la situation, il y a un mythe là aujourd'hui, ce n'est pas par manque de respect pour un président de la République. Mais il y a un mythe aujourd'hui qu'il faut casser. Si on doit avoir la paix au Bénin, ça ne dépend pas que d'une personne. Ça dépend de toute l'administration, ça dépend de toutes les parties prenantes. Donc s'il faut faire un appel à la paix, il faut faire un appel à tous ceux qui peuvent contribuer aussi à n'importe quel niveau qu'ils sont au Bénin pour que la paix soit préservée et que nous y allons à ces élections-là dans les conditions de paix et de sérénité. Parce que, encore une fois, la paix au Bénin ne dépend pas que du président Talon, ça dépend de tous les Béninois. Donc, que chacun joue sa partition par rapport à cette chose-là, qui est notre équilibre et notre sérénité qu'on a dans ce pays-là. Parce que un président de la République, quel que soit ce qui se passe, il aura toujours les moyens d'aller ailleurs, de vivre aisément. Celui qui sera le moins impacté, si jamais il y a un problème, c'est le président de la République et les gens qui ont des moyens. Il y a des gens qui n'ont que le Bénin et qui peuvent aller nulle part. Et ceux-là, ils doivent réfléchir par deux fois, par les actes qu'ils vont poser de part et d'autre, pas les petits billets qu'on va leur donner pour aller dans un sens ou dans un autre. C'est-à-dire que moi, c'est tous les Béninois, toutes les parties présentes à qui je fais un appel solennel pour qu'ils puissent préserver la paix et pour qu'ils puissent se mettre de l'eau dans leur vin pour ne pas avoir une situation catastrophique.
Merci. Merci, M. Madaro. On va directement à Nebraska.
Oui. Ce que je dirais, que nos dirigeants vraiment pensent à cette conférence nationale et qui a permis à tous les Béninois de s'entendre en moins de 10 jours pour que tout aille aujourd'hui très bien, qu'il y ait des élections démocratiques aujourd'hui au Bénin. Et qu'ils pensent à cela, et qu'ils pensent aussi que la conférence, avec toute sa souveraineté, pouvait empêcher le général Mathieu Kérékou dans le temps, mais ne l'a pas fait pour question de paix. qu'ils pensent vraiment la paix. La paix, la paix, c'est très important. J'ai aussi une pensée pour le président Pascal Fantondi du PCB qui s'est réellement battu et qui a quitté la Côte d'Ivoire, qui a laissé la Côte d'Ivoire, était rentré pour se battre pour son pays et qui est mort sans que personne ne sache aujourd'hui. Qui sont ceux-là qui ont réellement battu, qui se sont réellement battus pour que nous ayons cette conférence nationale? Je ne parlerai pas qu'après il y a eu des usurpateurs, mais les réels combattants de cette conférence nationale, de cette démocratie que nous vivons aujourd'hui, c'est les membres du Parti communiste du Bénin qu'il faut toujours remercier. Merci.
Merci, M. Félix. Nous allons à Iowa, M. Saliou.
Oui, merci beaucoup, M. Gavin. Moi, je rien que la paix, j'aurais souhaité rien que la paix et la paix. J'aurais aussi demandé à l'opposition de se conformer à toutes les conditions nécessaires pour que qu'ils puissent aller aux élections, parce que nous voulons vraiment les élections législatives, nous voulons ça, et c'est ça qui garantit notre démocratie au Bénin. Et nous voulons que ces élections se passent dans la paix et dans la convivialité. Donc, bien que la paix, et pour finir, je dirais tout simplement, vive la République, vive le Bénin. Et merci beaucoup aussi à vous, M. Gabin, pour tout l'effort que vous faites, pour tout ce que vous faites, pour pouvoir nous mettre ensemble et pour pouvoir nous faire un peu dire ce que nous pensons de notre situation au Bénin. Merci pour cet amour patriotique. Que le Seigneur vous bénisse, vous et votre famille. Je remercie aussi au passage tout le monde qui s'est sacrifié, surtout nous ici, parce que nous, on s'est réveillés depuis 3 heures ici. Donc, vraiment,
merci à vous.
Merci beaucoup à moi-même et merci beaucoup à mon chien.
Merci, monsieur. Merci, monsieur Salé.
Monsieur Alphonse, je vous aime beaucoup. Donc, merci beaucoup à tout le monde et on est ensemble. Bonne journée, bonne soirée à vous.
Merci, merci. Donc, on clôture avec monsieur Alphonse.
Ah, merci beaucoup. C'est un plaisir de prendre la tête, si tu veux, pour aller à la maison, de m'avoir donné surtout l'opportunité d'être observateur dans cette situation béninoise. Je suis togolais de naissance, mais ma deuxième patrie, c'est le Bénin, et ma troisième, c'est les États-Unis. Donc, un mot qui avait coulé sur toutes les lèvres depuis Madame Sonia à Aziz, sans oublier Saliou, Félix et toi-même au micro, c'est la paix. Puisque la paix n'a pas de prix, alors il faut la sauvegarder. Pour le bien-être du peuple béninois et surtout pour l'Afrique, parce que l'Afrique doit se développer. Et en se développant, en sauvegardant la paix et la démocratie, nous tous, on ira vers le bon port. Surtout la diaspora a des idées, a l'amour pour sa patrie. Mais quand il y a le désordre, tout serait perdu. Merci encore, Gabin, de m'avoir encore donné le micro. C'est ce matin chez nous. Et que la paix de Dieu soit sur les toits de ces gens qui ont contribué aujourd'hui encore à cette émission. Bye bye.
Merci, monsieur Alphonse. Merci, madame Sonia. Merci, monsieur Badaro. Monsieur Félix. Monsieur Saliou.
Merci à tous.
Merci à vous tous. Merci. Et à très bientôt.
Merci, au revoir.
Medo, Medo.